Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Salut, c'est Thomas Rozek. Pour une bonne partie de ceux qui, comme moi, ont grandi à la charnière des années 80 et 90, la simple mention des mots évolution ou mutation évoque assez rapidement ceci. Une horde de super-humains au pouvoir plus fou et variés les uns que les autres. On est beaucoup à avoir rêvé de muter pour rejoindre les X-Men, jusqu'à ce que la science-fiction nous propose d'autres perspectives d'évolution moins enthousiasmantes, à base de corps tassés et rabougris du fait d'une sédentarisation de plus en plus intense. Au-delà de ces fantasmes de fiction, le fait est que sans qu'on s'en rende forcément compte, nous changeons sans cesse. Récemment d'ailleurs, la presse mondiale s'est fait l'écho de l'apparition, chez certains jeunes Australiens très accrochés à leur smartphone, d'une excroissance osseuse à la base du crâne. Certains parlent carrément d'une corne, un petit bout d'os en plus, lié à des modes de vie qui changent. Ça nous a poussé à nous interroger. Est-ce que l'humain est en train de muter? Est-ce que la science imagine déjà comment les bouleversements sociaux, culturels et environnementaux que nous vivons pourraient nous faire évoluer? À quoi ressembleront les hommes et les femmes de demain? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Pour répondre à ces questions très vastes, il nous fallait évidemment quelqu'un qui maîtrise sur le bout des doigts les notions de biologie, de génome et d'évolution. Et nous l'avons trouvé en la personne d'Evelyn Heyer, spécialiste de l'anthropologie génétique, professeure au Muséum National d'Histoire Naturelle, rattachée au Musée de l'Homme. Elle a accepté d'être notre guide dans les méandres de nos mutations et j'ai commencé par lui demander si l'humain évoluait tout le temps.
On évolue parce que tout ce qui est vivant évolue, quoi. Chaque génération, il y a des nouveautés génétiques qui apparaissent, des nouveautés génétiques, ce qu'on appelle des mutations. Et comme tout être vivant, on a des mutations qui apparaissent. Et en ce sens-là, on évolue. Mais voilà, dans le sens grand public, c'est plutôt est-ce qu'on évolue, en gros, est-ce qu'on change d'apparence?
Oui.
Et là, ce n'est pas tout à fait forcément la même réponse.
Et du coup, ces mutations qui sont avérées, qui sont réelles et qu'on ne voit pas forcément, elles sont de quel ordre?
Alors, on a, chaque être humain, en moyenne, 70 nouvelles mutations qui n'existaient pas à la génération précédente. Et ces 70 mutations donc, changent 70 lettres dans votre ADN. Et l'ADN, il compte 3 milliards de lettres. Donc, ça vous donne un ordre de grandeur. Donc, ce n'est pas beaucoup. Mmh. Mais ça existe quand même.
Et elles ont quelle implication concrètement? À quoi elles servent ces mutations tout simplement?
Alors,
ou à quoi elles répondent?
La plupart, elles servent strictement à rien.
C'est vrai. Hein.
Il faut bien voir que dans l'ensemble du génome, il y a seulement une petite partie de notre génome qui est codant. Il y a seulement 2% du génome qui est lu pour faire des protéines. Le reste a peut-être une utilité, mais c'est encore assez débattu. Mais l'essentiel des nouvelles mutations qui arrivent ne font rien, mais peut-être qu'elles serviront un jour.
Et du coup, elles sont liées à quelque chose? Elles sont environnementales? Pourquoi est-ce qu'elles interviennent, ces mutations?
Les mutations, en fait, c'est, je dirais, le fuel du vivant, la nouveauté du vivant et de l'évolution, c'est les mutations. Il y a sans arrêt des nouvelles mutations qui apparaissent. C'est parce que, en fait, la machinerie d'ADN, comme elle est conçue, notre ADN, fait que quand elle se reproduit, donc quand on fait ce qu'on appelle la méiose, il y a forcément des petites erreurs qui apparaissent. Et donc, c'est des mutations.
Et si on remonte un peu le temps, est-ce qu'on a trouvé la trace de mutations d'il y a des centaines, des milliers de générations qu'aujourd'hui je peux voir concrètement sur mon corps, par exemple des choses qui n'existaient pas avant?
Ah bah oui, par exemple en Europe, il y a des mutations qui sont apparues, on pense il y a à peu près 10-20 000 ans, qui font une couleur de peau claire. Quand on sort d'Afrique, notre espèce sort d'Afrique il y a grosso modo 100 000 ans, on est de couleur de peau foncée. On colonise l'Europe il y a 40 000 ans, hein, pour vous resituer un peu le débat. Et on évolue en Europe, les premiers Européens, et pendant plusieurs dizaines de milliers d'années, sont noirs de couleur de peau. Il y a des mutations qui vont apparaître un peu plus tardivement et qui vont faire une couleur de peau plus claire.
Et donc ça, à l'origine, ça ne servait pas forcément, c'est tiré d'un code génétique qui ne servait pas forcément
à
quelque chose.
Alors la mutation, elle apparaît par hasard, toujours. Mmh. Mais ouais. Après, le fait qu'elles soient conservées et qu'elles se répandent dans une population, un des mécanismes les plus importants pour ça, c'est la sélection naturelle. C'est-à-dire, si la mutation vous donne un avantage, c'est-à-dire que ceux qui portent cette mutation survivent mieux ou se reproduisent mieux, alors, au fil des générations, elle va de plus en plus augmenter en fréquence et se répandre dans la population.
C'est-à-dire qu'il y a une gestion sociale, quasiment, de la mutation.
Bah là, dans le cas de la couleur de peau, c'est pas social, c'est une adaptation au climat, ouais. À une latitude où il y a moins de soleil. Et dans ce cas-là, c'était avantageux d'avoir une couleur de peau plus claire pour assimiler la vitamine D. Et c'est en lien aussi avec l'alimentation. C'est-à-dire, on voit que la sélection pour cette mutation commence à entraîner cette mutation au moment où l'alimentation a moins de vitamine D. Donc, il y a environ, on estime, 10 000 ans à peu près.
Ces derniers temps, on a beaucoup lu dans la presse, notamment beaucoup d'articles sans doute un peu sensationnalistes, qui faisaient état d'une mutation, pour le coup, de la détection chez certains êtres humains assez jeunes, de l'apparition d'une espèce de corne, une excroissance à la base du crâne qui serait liée à l'utilisation intensive d'écran et à la position que prend le corps pour regarder ces écrans. Est-ce que là, on parle de mutation, là aussi ?
Non, parce que les mutations, elles apparaissent au hasard. Elles apparaissent jamais pour...
À cause d'un usage.
Voilà, à cause d'un usage ou pour répondre à une fonction. Je pense que là, ce qu'on voit, c'est plutôt un changement physiologique que vraiment une mutation dans le code génétique.
C'est-à-dire un changement physiologique, pour moi qui suis absolument nul
en science. Le fait que vous vous teniez moins bien, petit à petit, le corps, c'est assez plastique. Donc, ça répond au fait de moins bien se tenir. Quoi.
Et est-ce que, du coup, on peut imaginer de voir ce genre de développement, on va dire, d'évolution du corps humain, hein, si on ne peut pas parler exactement de mutation, se répandre avec l'usage de plus en plus intensif de ces outils ?
Alors là, encore une fois, si c'est une mutation génétique, ce que je ne pense pas être le cas, mais une mutation génétique, pour qu'elle se répande, il faut qu'elle donne un avantage, une meilleure survie ou une meilleure reproduction à ceux qui la portent. Là, je ne vois pas très bien de lien entre la reproduction et la survie. Par contre, que comme de plus en plus de gens aient une mauvaise habitude de se tenir d'une certaine manière, il y ait de plus en plus de gens qui aient posture, oui. Mais ça n'a rien à voir avec l'évolution ni avec la génétique.
Ça ne peut pas se transmettre, par exemple.
Pas du tout. C'est pas parce que ça, ce dont vous parlez, c'est ce qui a été réfuté, c'est ce qu'on appelle la transmission des caractères acquis. C'était la grande idée de Lamarck, schématiquement, parce qu'il pensait quand même un peu plus subtilement que ça.
De manière un peu plus complexe, j'imagine très bien.
Mais on va dire, grosso modo, c'était l'idée que les mutations apparaissent pour répondre à un usage. C'est pas le cas, elles apparaissent par hasard. Et si jamais elles sont intéressantes d'un point de vue de l'évolution, elles se répandent.
Du coup, ça bat en brèche cette idée. C'est une vraie idée reçue, pour le coup, autour de l'évolution humaine. On l'a vu notamment beaucoup utilisée dans la science-fiction, par exemple, lorsqu'on se représente l'être humain dans une centaine, 200 ans. C'est souvent avec des traits déformés par les usages
Tout à fait.
Sociaux.
Oui, c'est une vision fausse. On imagine toujours que comme on marche moins, on va perdre nos jambes, que comme on utilise beaucoup le téléphone avec nos doigts, on va avoir des doigts qui s'allongent ou des choses comme ça. Donc ça, c'est complètement faux.
L'extra-sédentarité qui est devenue un vrai problème social, on va dire, qui est un problème civilisationnel même, c'est-à-dire que non seulement en plus d'être devenus des humains sédentaires, on devient des extra-sédentaires du fait notamment de nos activités de bureau et du fait qu'on passe de moins en moins de temps à l'extérieur, de plus en plus de temps assis devant un ordinateur. Je schématise évidemment énormément. Ça ne peut pas avoir de conséquences sur notre aspect, sur notre corps, sur notre...
Ah si, ça a un effet sur notre corps et sur notre aspect.
Un effet en termes, je veux dire, un terme vraiment global, pas juste individuel.
Non, mais regardez, je pense que pour bien l'expliquer, il faut par exemple réfléchir, par exemple, la taille.
Oui.
On a beaucoup augmenté en stature, en taille, depuis 150 ans. Et on sait que cette évolution, elle est surtout liée à l'alimentation. On mange mieux, il y a moins de maladies infectieuses quand on est enfant. Et donc, on se retrouve avec une plus grande taille. Mais dans ce cas-là, l'évolution, elle n'est pas génétique. Si à nouveau, on avait des infections enfants et on avait une mauvaise alimentation, les enfants d'après, ils seraient petits. Donc là, on n'est pas dans de l'évolution génétique. Et c'est vrai que... En tant que scientifique, on distingue vraiment ce mécanisme d'évolution, donc qui réfère à l'évolution génétique, avec ce qu'on pourrait appeler tout simplement de la plasticité, c'est-à-dire oui. en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes, dans lequel vous êtes élevé, pour un patrimoine génétique donné, vous allez être plus ou moins petit ou plus ou moins grand.
Moi, j'ai grandi avec cette idée qui tournait, qui est sans doute une énorme rumeur scientifique qui se repassait de personne en personne, selon laquelle, par exemple, le petit doigt de pied allait disparaître à l'échelle de plusieurs générations, certainement, mais qu'il était voué à disparaître. Là encore, ça rentre dans le cadre de ce qu'on évoquait plus tôt, ces
oui,
espèces
alors,
de,
si
espèce
vous
de perception.
Il faudrait déjà qu'il y ait une mutation génétique qui fasse que vous ayez ou pas un petit doigt de pied. Bon, imaginons qu'elle existe.
Ça, on n'en est pas certain.
Non, mais bon. Je veux dire, la nature est pleine de surprises. Donc voilà, on sait que par exemple, il y a des gens qui ont 6 doigts. Donc,
tout à fait,
voilà.
dont des doigts fonctionnels pour le coup.
Dont des doigts fonctionnels. Mmh. Mais imaginons qu'on ait une mutation, donc on va raisonner. On imagine qu'il y a une mutation qui apparaît qui fait que vous perdez votre doigt de pied. Donc dans la population, vous avez des gens qui ont les doigts de pied, d'autres qui n'ont pas les doigts de pied. Pour que ça se répande, les gens qui n'ont pas de doigts de pied, par sélection naturelle, il faut qu'il y ait un avantage. Il faut qu'ils se reproduisent mieux ou qu'ils survivent mieux. Donc déjà là, franchement, je vois pas en quoi le fait d'avoir ou pas un doigt de pied, ça permettrait de mieux survivre ou de mieux se reproduire. Ça, c'est le premier mécanisme, c'est la sélection naturelle. L'autre mécanisme, c'est le hasard. Juste par hasard, il se trouve que les gens qui ont un plus petit doigt de pied, par hasard, ont plus d'enfants et petit à petit, ça va se répandre. Déjà, là, ça prend beaucoup plus de temps. Quand c'est juste le hasard qui fait évoluer, on évolue, mais ça prend beaucoup plus de temps.
Vous citiez cette information qui, pour le coup, est vérifiée des personnes avec un sixième doigt. Là encore, j'imagine que c'est scientifiquement lié au hasard. C'est une mutation hasardeuse. Pour que ça se transmette, il faudrait, là encore, comme on le disait pour le petit doigt de pied, que on lui découvre un intérêt supérieur et que du coup le gène se
Pour que ça se diffuse par sélection naturelle oui. et que ça augmente vite en fréquence, il faut qu'il y ait de la sélection naturelle. Oui. Donc il faut qu'il y ait un avantage en termes de survie ou de reproduction. Par contre, ça peut évoluer par hasard dans la population. Mais dans ce cas-là, votre fréquence, entre guillemets, c'est-à-dire le nombre de gens qui portent la mutation, va rester à peu près le même d'une génération oui. à la suivante.
Et certainement marginal au début.
Voilà. Et la probabilité, en général, on peut la calculer formellement, on a plein de belles formules mathématiques.
C'est
en
vrai.
Général, une nouvelle mutation qui apparaît, elle disparaît.
Il y a un autre élément à prendre en compte si on se projette sur les générations à venir, c'est tout ce qui est du ressort de la perturbation que peut, génétique pour le coup, que peut induire les évolutions du climat, notamment, autour de nous. Est-ce que là, encore, la science est capable de dire que poussé par des conditions extrêmes, l'humain peut évoluer plus rapidement que prévu.
Plus rapidement, je ne sais pas, mais c'est pas. On peut imaginer qu'il y ait des gens qui, dans leur patrimoine génétique, soient mieux faits pour résister
à des conditions climatiques
difficiles. On le voit, par exemple, bon, pas pour le climat, mais on le voit pour l'altitude au Tibet. Mmh. On connaît maintenant les mutations génétiques qui permettent aux gens du Tibet de s'adapter à l'altitude, et on voit que c'est une mutation qui est apparue il y a quelques dizaines de milliers d'années et qui a augmenté très fortement en fréquence. Elle a même une histoire encore plus rigolote, celle-là, parce qu'elle nous a été transmise de nos cousins, les hommes de Denisova, qui sont un peu dans la famille des Néandertaliens. Donc voilà, elle a en plus toute une histoire, c'est-à-dire elle n'est pas apparue chez Sapiens, notre espèce, elle est apparue dans une autre espèce, on s'est croisé avec cette autre espèce.
Mais est-ce qu'on s'est croisé justement pour aller chercher ses capacités?
Ah, on ne s'est pas croisé pour aller chercher ses capacités. Mais on s'est croisé et parmi les bouts de génome qui sont restés de cette autre espèce, il y a cette mutation qui permet une adaptation à l'altitude.
C'est un cas unique de croisement comme ça, ou est-ce qu'il y en a d'autres dans l'histoire avec justement des conséquences d'adaptation à différentes réalités?
Oui, par exemple, on sait que on s'est croisé aussi avec l'homme de Néandertal. Donc tous les êtres humains à l'extérieur de l'Afrique ont 2% de leur génome qui vient de l'homme de Néandertal. Et parmi ces 2%, il y a des petits bouts d'ADN qui correspondent à des mutations qui seraient avantageuses, notamment dans la lutte contre les pathogènes.
C'est-à-dire la lutte contre les maladies ?
Oui, contre les maladies. Voilà, la lutte contre les maladies qui serait finalement qu'on aurait récupéré de Néandertal et qu'on aurait conservé dans notre génome parce que c'est intéressant.
Est-ce qu'on est capable, est-ce que la science se pose la question, est-ce qu'elle est capable de mesurer, justement de se projeter sur ce vers quoi va aller l'humain en termes de mutation et d'évolution ? Ou alors est-ce que le facteur de hasard est tellement important que c'est quasiment impossible ?
Alors, on peut dire qu'on ne viendra pas avec des jambes courtes et des doigts très longs et des yeux carrés et des oreilles vertes. Mais enfin, je ne sais pas pourquoi les oreilles vertes, mais ça m'est venu comme ça.
Ça pourrait venir,
voilà,
on
ça
ne sait
pourrait.
Pas. Ça, pour le coup, ça pourrait.
on sait qu'il y a des mutations au hasard. On a quand même des exemples à l'heure actuelle d'évolution en cours. Qui sont rares, parce que tous ces processus d'évolution, ça prend du temps. Mais par exemple, il y a des études au Danemark qui étudient la fertilité, les problèmes de fertilité. Mmh. Il y a un problème de sous-fertilité masculine, pas juste au Danemark, mais au Danemark, ça a été étudié. Et on sait qu'il y a certaines formes génétiques de certains gènes qui protègent contre cette sous-fertilité et d'autres variants génétiques qui rendent plus sensibles à cette sous-fertilité. Donc on voit des changements de fréquence qui arrivent assez vite. Donc là, on voit la sélection agir, mais ça sous-entend, pour que ça évolue vraiment longtemps, qu'il y ait toujours les mêmes facteurs environnementaux. Là, dans ce cas-là, on pense que cette sous-fertilité, elle est peut-être liée aux pesticides ou des choses comme ça. On ne connaît pas exactement
les
raisons. Mais il faudrait, pour que ça continue à évoluer de la même manière et qu'on puisse se projeter, qu'on envisage qu'on utilise les mêmes pesticides encore pendant 100, 200, 300 ans. Et j'espère bien que ça ne sera pas le cas.
Et justement, puisque vous en parlez, tout ce qui est du ressort de ce qu'on appelle très globalement les perturbateurs endocriniens, donc tous ces usages qu'a développé l'homme, surtout depuis le XXe siècle, qui sont certainement la cause soit de maladies, même si tout n'est pas encore établi scientifiquement, mais il y a des forts soupçons, soit potentiellement d'évolution génétique. Est-ce que ça aussi, c'est mesurable ?
Alors, sur les perturbateurs endocriniens, visiblement, d'après plusieurs travaux, ça aurait un effet en interaction avec la glande thyroïdienne, donc celle qui fait dans la thyroïde, et ça aurait des effets dommageables sur la santé. Donc là, on n'est pas dans de l'évolution génétique. On va être dans de l'évolution génétique s'il y a des gens qui ont des variations génétiques qui les rendent résistants à ça et qui, eux, dans un environnement où il y a des perturbateurs endocriniens, survivent mieux, se reproduisent mieux que les autres. Mais ça, on n'a aucune idée, même si ça existe.
Et on pourrait le savoir uniquement dans quelques générations, j'imagine.
Oui, ou alors il faudrait faire des grosses enquêtes épidémiologiques en regardant si des gens qui sont soumis à ces perturbateurs endocriniens, il y a certaines personnes qui ont des variations génétiques qui font qu'eux, ils n'ont pas de problème de santé, alors que d'autres en ont.
Et justement, puisque, pour terminer peut-être, c'est une question que je ne vous ai pas posée dès le début, mais que j'aurais pu sans doute. Comment est-ce qu'on la mesure, cette évolution ? C'est quoi les enquêtes qui sont menées justement ? Il y a des enquêtes génétiques, on fait des relevés, on suit des groupes de population ?
En fait, on va utiliser des populations qui sont dans un environnement donné. On va regarder dans leur ADN des bouts d'ADN qui ont, entre guillemets, évolué plus vite que le reste du génome. Et donc ça va être une trace de sélection naturelle qui a eu lieu dans le passé. Donc en fait, c'est des études statistiques sur les données de séquence des individus. Donc ça, c'est l'approche, on va dire, plus génétique des populations, où on retrace dans le passé s'il y a eu des événements de sélection. Et après, vous avez l'approche plus médicale, où vous avez des gens qui sont malades, d'autres qui ne sont pas malades, et vous essayez de trouver dans leur génome, est-ce qu'il y a un facteur génétique qui expliquerait cette maladie plutôt que l'absence de maladie.
Et si on parle de l'approche génétique purement, comment est-ce qu'on les détermine, ces groupes ? Comment est-ce qu'on décide, là, dans ce groupe-là, peut-être qu'il y a une évolution qui serait intéressante d'aller chercher ?
Par exemple, l'exemple, je vais poursuivre sur le même exemple parce que ce sera plus simple, mais par exemple le Tibet, oui. On voit que les populations tibétaines, elles sont adaptées à l'altitude. Oui. Les populations chinoises qui ont envahi le Tibet, elles ont un taux de mortalité autour de l'accouchement qui est beaucoup plus élevé que les populations tibétaines. Donc là, on a deux groupes qui, dans un même environnement, ne réagissent pas de la même manière. On regarde tout leur génome et on trouve les endroits où il y a des différences entre ces deux populations. Et une fois qu'on a identifié ça, avec des outils de calcul statistique, on arrive à calculer s'il y a eu de la sélection naturelle et à peu près quand elle a commencé à agir.
Évidemment, nous n'avons fait ici qu'effleurer le très très vaste sujet de l'évolution. On pourrait par exemple consacrer un épisode entier à cette question de la sélection naturelle qu'on évoquait à l'instant et à la manière dont, au gré des bouleversements culturels de nos sociétés, elle a elle aussi potentiellement évolué. Merci à Evelyne Heyer pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter si vous voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.
Binge.